apprend que ce ne fut la pure et simple cocasserie du spectacle du petit seigneur Eduardo au bras du grand Travelot. Babi se mit à aboyer le premier. Il bondit de la poussette. Ce comportement inédit dans le numéro de chien savant perturba le pauvre perro mestizo, qui se mit à s'agiter et à la mordre un des pieds nus d'Edouard Bancho. Babi s'empressa de lever la patte et de pisser sur l'autre. Flore balança un coup de tatane au teckel et au bâtard. Ce ne fut pas du goût d'Allemagne. Il s'ensuivit une confrontation tendue entre le berger allemand et le travesti, grognement menaçant côté chien, maintien sur ses positions de Flore, à qui le combat ne faisait pas peur. Estrella, la perruque rousse de travers, essayait de calmer ses toutous. Loupé était tellement contrariée parce qu'elle lisait dans les pensées de Juan Diego qu'elle ne fit pas attention à l'agitation des chiens. « Je suis censé lire dans les pensées des lions, c'est ça ? » demanda-t-elle à son grand frère. « Je fais confiance à Soledad, » répondit-il, « pas toi ?»« Pour eux, on est indispensable si tu vas marcher là-haut, sinon ils n'ont pas besoin de nous, c'est bien ça ?»« Oh, je comprends, ça te plaît, l'idée de devenir une merveille au masculin, n'est-ce pas ?»« Soledad et moi, on ne sait pas si les lions changent d'idée et on suppose que tu pourras lire dans leurs pensées. » Juan Diego essayait de paraître désintéressé, mais devenir la merveille au masculin le tentait fichtrement. « Je sais ce que Hombre a dans la tête. Ce que je dis, c'est qu'on peut toujours essayer, rien qu'une semaine, pour voir. »« Une semaine ? » s'écria Loupé. « Tu n'as rien d'une merveille au masculin ou pas, tu peux me croire ?»« D'accord, d'accord, on leur donne 2 jours. Un simple essai, Loupé. Quel infirme ne rêve pas une fois d'avancer sans boiter ? Et si cet infirme peut avancer sous un chapiteau, alors ? Les marcheuses célestes ont du succès ? Elles sont admirées, adulées même, pour un parcours de 16 malheureux échelons. C'est une question de vie ou de mort, c'est comme ça. 2 jours ou une semaine, qu'est-ce que ça change? Pour elle aussi, tout allait trop vite. Tu te la joues trop. Ah, c'est moi qui me la joue. Et pendant ce temps-là, où étaient les adultes responsables? L'Américain, pieds nus, pensait à autre chose. Les outrages que les chiens avaient fait subir à ses orteils n'avaient pas réussi à le distraire de ses pensées, et il n'était guère en état de comprendre la situation critique dans laquelle se trouvaient les causes de la décharge. Quant à Flore, tout à son flirt avec l'homme de l'Iowa, comment lui reprocher d'être inconsciente de leur dilemme, qui se résumait à partir ou mourir? Les adultes présents ne pensaient qu'à eux. « Tu as vraiment de la poitrine ?» Et un sexe d'homme ? Lâcha Edouard Bancho à Flore, dont la mystérieuse expérience à Houston lui permettait de comprendre assez bien l'anglais. Si Edouard présumait qu'elle le comprenait, il ne se doutait pas qu'Estrella, la dresseuse de chiens, et Soledad, la femme du dompteur, comprenait elle aussi l'anglais, sans oublier Juan Diego et Loupé. Comme un fait exprès, au moment où Seigneur Eduardo avait posé la question, les chiens avaient cessé d'aboyer. Tout le monde avait entendu et semblait avoir compris. Une préoccupation qui n'avait rien à voir avec les gosses de la décharge. « Mon Dieu !» dit Juan Diego. Loupé saisit sa petite statue de Coatlicue et la pressa contre son semblant de poitrine. On aurait dit que la terrifiante déesse au sein fait de serpents à sonnette avait elle aussi compris la problématique poitrine et sexe d'homme. « Bah, je vais pas vous montrer mon sexe. »« Pas ici, » dit Flore à Edouard Bancho. Elle déboutonna son chemisier et le dégagea de sa jupe. Livrés à eux-mêmes, les enfants prennent parfois des décisions précipitées. « Tu ne vois pas ?» demanda Loupé à Juan Diego. « C'est elle, la femme de sa vie. Flore et le seigneur Eduardo vont pouvoir t'adopter. Il faut qu'ils soient ensemble pour t'emmener. » Flore avait maintenant ôté son chemisier. A priori, nul besoin de retirer aussi son soutien-gorge. Elle avait une poitrine menue, ce que les hormones pouvaient faire de mieux en la matière, comme elle le dirait plus tard. Flore était contre toute intervention chirurgicale. Pour qu'il n'y eût pas d'ambiguïté, elle ôta aussi son soutien-gorge. Même s'ils étaient petits, elle voulait qu'Edouard Bancho n'ait pas le moindre doute sur la réalité de ses seins. Ce ne sont pas des serpents à sonnette, tu vois. Dans sa Flore à Loupé dès que toute l'assistance eut découvert sa poitrine et ses mamelons. Partir ou mourir, répéta Loupé à Juan Diego. Seigneur Eduardo et Flore sont ta seule chance de salut. À présent, côté bite, Il faudra me croire sur parole, dit Flore. Elle avait remis son soutien-gorge et reboutonnait son chemisier quand Ignacio pénétra dans la tente. Les enfants eurent le sentiment que le dompteur ne prévenait jamais avant d'entrer quelque part. Viens voir les lions, ordonna-t-il à Lupe. Et toi, amène-toi aussi, ajouta-t-il à l'adresse du boiteux, l'aspirant merveille au masculin. Le discours était sans équivoque. Le travail d'extralucide concernait bel et bien les lions. Et si ceux-ci s'avisaient de changer d'avis, ce serait à Lupe d'en informer le dompteur. Quant au missionnaire aux pieds nus, mordus et trempés de pisse de chien, sa vocation en avait pris un coup. L'association Saint et Bite de Flore lui avait fait reconsidérer le célibat d'une telle façon qu'une autoflagellation prolongée n'aurait même pas pu le faire douter. Les soldats du Christ, avait dit Seigneur Eduardo au père Alfonso et au père Octavio avec l'assentiment muet de frère Pepe. Les deux vieux prêtres ne voulaient assurément pas que Lupe et Juan Diego restent aux enfants perdus. Leur crainte, exprimée du bout des lèvres à propos de la sécurité au cirque, relevait plus d'une posture sacerdotale que d'une authentique préoccupation. Ces enfants sont tellement incontrôlables, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient dévorés par les bêtes sauvages, avait dit le père Alfonso en levant les bras au ciel, comme si telle était la destinée des gosses de la décharge. Ils ne savent pas se tenir. Ils pourraient aussi tomber de ces espèces de balançoires volantes, avait renchéri le père Octavio. Des trapèzes volants, avait précisé Pepe avec obligeance. Oui, oui, des trapèzes, s'était exclamé le père Octavio comme si cette idée lui plaisait beaucoup. Pas question qu'il monte là-haut, avait assuré Edouard Bancho aux deux prêtres. Il sera traducteur. Au moins, il ne sera pas un petit chenapan de la décharge. Et la gamine lira dans les pensées, avait ajouté Pepe. Elle prédira l'avenir. Elle non plus ne montera pas sur le trapèze volant. Au moins, elle ne finira pas sur le trottoir. Il les connaissait bien, les deux vieux. Le mot « trottoir » était l'argument décisif. « Mieux vaut être dévoré par des fauves, » avait dit le père Alfonso. « Mieux vaut s'écraser au bas des trapèzes volants, » avait bien sûr corroboré le père Octavio. « J'étais sûr que vous comprendriez, » avait dit Edouard Bancho aux deux vénérables prêtres. Et pourtant, en ce moment où il semblait indécis, il avait l'air de se demander pourquoi il avait insisté. L'idée du cirque était-elle si brillante après tout? Et maintenant, repassant dans l'allée des tentes d'entraînement, Edouard Bancho veillait à ne pas marcher dans la bouse d'éléphant, clopinant tant bien que mal sur son délicat pied nu. Il était blotti contre Flore, accroché au bras de ce travesti plus grand et plus fort que lui. La courte distance jusqu'aux cages au lion, 2 minutes de marche à peine, devait lui paraître une éternité. Sa rencontre avec Flore, l'idée même de ses seins et de son sexe, avait altéré le cours de son existence. Pour lui, le trajet vers les cages avait des airs de marche céleste. Elle avait tout d'une pérégrination, à 25 mètres au-dessus du sol et sans filet. Et même s'il boitait très bas, chacun de ses pas le menait inexorablement vers une autre vie. Il glissa sa petite main dans la pogne de Flore et faillit tomber quand elle la lui pressa. « En vérité, tenta-t-il de dire, je tombe amoureux de toi. » Les larmes perlaient sur son visage. La vie qu'il avait si longtemps endurée, cette vie d'autoflagellation, voici qu'elle prenait fin. « Ça n'a pas l'air de te faire tellement plaisir, » remarqua Flore. « Si, si, je suis vraiment très heureux. » Il entreprit d'expliquer à Flore comment Saint Ignace de Loyola avait fondé un hospice pour les filles perdues. C'était à Rome, le saint a déclaré qu'il sacrifierait sa vie s'il pouvait empêcher ne serait-ce qu'une seule fille de se prostituer, ne serait-ce qu'une nuit, dit-il, toujours en larmes. « J'ai pas envie que tu sacrifies ta vie, espèce d'idiot. Je veux pas que tu me viennes en aide. Tu ferais mieux de commencer par me baiser. Oui, commençons par là, on verra bien après. » « D'accord. » Edouard Bancho manqua de tomber de nouveau. « Ah, le pouvoir du désir !» Les petites acrobates couraient à côté d'eux dans l'allée. Les paillettes bleues et vertes de leurs maillots scintillaient à la lueur des lanternes. Dolores les dépassa, mais elle ne courait pas, elle marchait d'un pas rapide, réservant la course à son entraînement de marcheuse céleste. Les paillettes de son maillot étaient argentées et dorées. À ses anneaux de cheville, des clochettes tintaient à chaque pas.